Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Erwan Lelouet, il est le fondateur de la marque Le Gramme. Salut Erwan.
Salut Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter et puis ensuite, deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à la création de ta marque?
Avec plaisir, moi je suis Erwan Lelouet, je suis designer industriel de formation. J'ai monté une première marque dans la joaillerie totalement par hasard en 2007 en partant de la matière première et d'or équitable en Colombie. Une marque qui s'appelle JEM, J-E-M.
Ouais, ensuite, que j'ai reçue ici.
Avec Dorothée Morel, alors.
Ouais, exactement, ouais.
Tout à fait, qui a repris la marque. Et ensuite, je me suis occupé de la joaillerie pour... je me suis occupé de l'horlogerie pour Isabelle Marin. J'ai fait des bijoux avec Diesel. Et ensuite, je me suis occupé de la joaillerie pour Margiela.
Ok.
Maison Margiela. Et j'ai lancé Le Gramme courant 2013. Sur un positionnement de marque pour hommes, de marque de bijoux pour hommes. J'avais avant à la fois envie de créer des bijoux que je pouvais porter, et c'était aussi partie du constat et du postulat que le marché pour hommes était en pleine expansion et en demande, et qu'il y avait une offre qui répondait pas aux attentes.
Très bien. Eh bien, tu vas très très vite. Hein. Est-ce que tu peux quand même revenir un petit peu sur tes précédentes expériences? Parce que entre tes études et la création de la marque JEM, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux, trois petits trucs quand même.
Oui, oui, il y a eu des rencontres surtout, et c'est ce qui a ponctué mon parcours. En l'occurrence, la rencontre avec un franco-colombien qui était un ami et qui m'a fait découvrir l'or équitable à l'époque. Et complètement interloqué par la démarche, je me suis intéressé, et j'ai eu une démarche qui était propre à mon parcours scolaire de designer industriel, à savoir j'ai une question ou une problématique et je vais y répondre par un service ou un produit qui va à la fois avoir une ergonomie, une fonction et un esthétisme. J'ai un peu appliqué cette démarche dans la création de ma société. Du coup, je suis parti de la matière première, de cet or équitable, et j'ai remonté toute la filière à l'époque, ce qui a été passionnant, ce qui a fait que j'ai monté une société en trois fois plus de temps que n'importe qui. Mais en revanche, je maîtrisais parfaitement toutes les chaînes les chaînes de valeur du produit.
Rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Alors, moi, une question qui me vient, c'est quoi l'or équitable et comment est-ce qu'on trouve et comment est-ce qu'on source de l'or équitable? Parce que j'ai l'impression, arrête-moi si j'ai une bêtise, mais autant dans l'industrie de la mode, on commence à avoir une vision relativement claire de ce qu'il faut faire pour être une marque éco-responsable en termes de sourcing, etc., même si tout n'est pas parfait encore. J'ai le sentiment que dans la joaillerie, dans le bijou, c'est encore quelque chose qui est assez opaque, et c'est assez difficile finalement de faire une marque responsable quand on utilise des métaux précieux et des métaux tout court.
Oui, tu as raison, c'est même complètement utopique en réalité. C'est un secteur qui est assez passionnant, il est aux premières loges face à tous ces enjeux sociaux et environnementaux, et pour autant il est peu actif. Mais il agit quand même. À l'époque, nous, il faut savoir qu'on était des pionniers, que j'étais un pionnier et que j'ai essuyé tous les plâtres du développement durable dans la joaillerie et même dans le luxe. C'est ce qui a fait aussi que, que pour le gramme, j'ai pas pensé le business model de la même façon. Il en reste pas moins que j'ai des convictions par rapport à ces questions, mais la réalité, c'est qu'un projet économique doit être avant tout durable économiquement. Mmh. Et sur l'aspect développement durable dans la joaillerie, il y a tellement d'enjeux sur la matière première et la production un peu moins parce que une majorité de la production est faite en France et en circuit court, en tous les cas pour les marques de luxe. Mais c'est vrai que sur la matière première, c'est plus complexe en sachant que le secteur recycle déjà une majorité de sa matière première.
Ouais, finalement, c'est vrai que c'est ce que j'ai compris en parlant avec pas mal de bijoutiers récemment, c'est que ouais, la matière première, quoi qu'il arrive, que ce soit l'or, l'argent, même le laiton, le bronze, le cuivre, tout vient d'anciens bijoux ou du monde électronique, non ? C'est ça ?
En fait, oui, une partie, mais c'est surtout que les méthodes de production des bijoux, en l'occurrence, pour être un peu plus précis, qui sont en fonte à cire perdue, utilisent des métaux et réutilisent leur propre métal de façon recyclée en circuit fermé. Et les affineurs à qui tu achètes les métaux précieux, eux, recyclent les métaux. Puisque les métaux précieux ont une valeur intrinsèque, il y a qu'à juste suivre le prix du cours de l'or en ce moment qui s'envole. Ouais. C'est tellement précieux que le secteur fonctionne déjà sur le recyclage. Donc si tu veux, c'est un vaste sujet dans la joaillerie. C'est vraiment un vaste sujet. Après, en l'occurrence, le point de départ de moi de mon parcours professionnel et de GEM, ça a été cet or équitable qui provient de mines artisanales en Colombie et au Pérou, où là, le postulat, il était très simple. Le postulat des producteurs, c'était de dire on légifère et on accompagne les orpailleurs illégaux dans une démarche de bienveillance et de respect de l'environnement dans tout ce qui est extraction des métaux précieux.
Très bien, ok. Et avant d'aller un petit peu plus loin, je pense que la question que j'aurais dû te poser depuis le début, c'est comment est-ce qu'on fait un bijou ?
Ça c'est une vaste question. Comment on fait un bijou ? Je vais peut-être te répondre, en l'occurrence, avec le prisme Le Gramme. Chez Le Gramme, on fait un bijou en partant de la création et en partant avant tout de l'envie. Nous, on est drivé principalement par notre envie et le plaisir, et on s'inspire de formes élémentaires et d'inconscient collectif. C'est ce qui nous confère d'ailleurs un langage assez rationnel qui parle certainement aux hommes sans ambiguïté, à l'inverse du secteur où beaucoup de marques ont envie et font d'ailleurs des gammes pour hommes, mais peu en réalité parlent aux hommes sans ambiguïté puisqu'ils ont tous des gènes féminins. Nous, comment on fait un bijou chez nous ? On part de l'envie, on part de la création, on s'inspire de ces formes élémentaires et ensuite on nourrit la création des contraintes techniques, des contraintes de production. Chez nous, chez Le Gramme, une majorité des produits sont usinés dans la masse puisqu'on travaille principalement des métaux précieux massifs, ce qui nous permet d'avoir une meilleure, en tous les cas, d'être plus précis sur les détails et en sachant qu'on est complètement fou, on est fou du détail, nous. Donc c'est tout ce qui ne se voit pas, même on va pouvoir y passer un temps fou. C'est ce qui fait c'est ce qui compose notre ADN.
Donc, quand tu dis usiner dans la masse, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu pars d'un bloc et tu viens sculpter finalement le bijou dedans.
Oui,
et c'est pas fondu dans un moule.
Ouais, c'est à peu près ça. Une fois qu'on a nos dessins et qu'on est assez satisfait, on passe sur une étape de 3D et ensuite on part sur des résines ou des prototypages en imprimante 3D pour avoir une forme. Et après ça, en effet, on passe sur la matière et quand on travaille la matière, en l'occurrence que ce soit l'argent ou l'or, on va acheter ce qu'on appelle des apprêts. Donc c'est la matière première à des affineurs, qui sont soit des blocs de matière, soit des plaques ou des lames ou des tubes qu'on va engager dans des machines-outils, des machines 5 axes, généralement qui sont plutôt utilisées dans l'industrie et dans l'aéronautique. Et ces machines vont usiner les produits dans la masse, dans la matière première.
Très bien, ok. Et donc là, tu nous as parlé de la conception, enfin en tout cas la dessiner, le créer, et finalement, bah ouais, on a bouclé la boucle. Là, t'as un produit en main, t'as un bijou, et terminé. Il faut plus le vendre. Il faut le vendre derrière, c'est ça.
Il n'y a plus qu'à le vendre. Ouais.
Ok. Et là, ça c'est un autre sujet qu'on y viendra un petit peu plus tard. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur ton expérience Margiela. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu y as appris pendant toutes ces années. Enfin, t'es resté combien de temps d'ailleurs là-bas?
Alors moi, c'était un peu particulier puisque Margiela, c'est structuré à l'époque. En tous les cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était vraiment structuré en licence. Moi, je voulais absolument bosser avec la maison. J'ai toujours été un fan du positionnement, de l'ADN, de l'esprit et de l'esthétisme que Margiela avait insufflé, mais que la maison avait su pérenniser même post départ de Martin Margiela. Du coup, j'ai tout essayé et je suis rentré par la porte, la fenêtre, le garage et la porte de dérobée derrière pour pouvoir travailler sur la joaillerie avec eux. Donc j'ai signé, j'ai discuté avec eux pendant 2 ans et demi et c'était okay. Avant une rencontre à l'époque avec le DG et le directeur marketing qui était Stefano Caputo et il s'est créé un lien. Moi, je les ai adorés. Et du coup, pendant 2 ans et demi, on a discuté, j'ai négocié la licence monde que j'ai signée de joaillerie. Et puis ensuite, j'ai revendu moi la licence à un groupe de production de bijoux et j'ai accompagné la maison et le groupe pendant 2-3 ans dans le développement de la ligne de joaillerie pour Margiela. Et ça a été passionnant.
Ouais, j'imagine, mais c'est un délire. Racheter la licence bijoux à une marque comme ça, ça paraît complètement dingue. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne? Parce que ça a l'air tellement inaccessible, c'est fou que juste un mec arrive à racheter une licence, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être très banal, mais j'avais jamais entendu cette histoire.
Ouais, en fait, bah, t'as pas mal de maisons qui fonctionnent en licence principalement pour le parfum, généralement. Mais il y a certaines maisons qui sont structurées en licence. Pierre Cardin était structuré en licence sur la majorité de ses gammes produits, de mémoire. Et Margiela, je sais qu'ils étaient structurés comme ça. Honnêtement, ça s'est fait vraiment par rencontre et opportunité. Moi, quelque part, mon objectif, c'était pas de signer une licence et de la revendre. Mon objectif, c'était de travailler avec Margiela. Et en l'occurrence, le moyen qui s'est offert à moi, c'était celui-ci. Donc, je me suis adapté. Et je me suis laissé driver par ce côté entrepreneur chez moi qui fait qu'il n'y a aucune limite et rien d'impossible. Je reste convaincu que tu atteins les limites que tu te fixes.
Ouais, très bien, on y reviendra. Tu as pu bosser avec Martin Margiela lui-même ou pas du tout?
Non, avec toute la plus grande frustration que je peux avoir, non, parce que moi je suis arrivé après son départ. Je suis parti presque le jour où Galliano est arrivé et a pris ses fonctions.
D'accord, ok. C'est vrai que tu soulignais juste précédemment le fait que tu étais un entrepreneur. J'ai le sentiment, alors non, je dis certes une bêtise, mais ça vient de quoi? C'était inné chez toi? Parce que en général, un dessinateur industriel ou un designer industriel, c'est pas quelque chose qu'il a en lui. Et c'était un rêve pour toi de monter des boîtes ou pas du tout?
C'est amusant. C'est assez amusant que tu me poses la question. C'est amusant parce que c'est une dualité chez moi et que j'ai mis des années à pouvoir vivre avec et à l'assumer. J'étais convaincu qu'il fallait que je fasse un choix, si tu veux, entre la création et la partie business et qu'on pouvait pas faire les deux correctement jusqu'à ce que je fasse la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Jacques Lévy, qui est devenu mon mentor et qui m'a et qui m'a permis d'épouser un peu plus qui j'étais et d'embrasser ce que je savais faire. Et en l'occurrence, j'ai cette dualité-là. J'ai ce goût et cet amour pour la création et cette sensibilité. Et en même temps, j'ai cette fibre business en moi. Donc, pour répondre à ta question, tout s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai eu un papa entrepreneur qui est beaucoup plus âgé. Mais du coup, j'ai été un peu bercé par ça, inconsciemment. Et ensuite, ça s'est fait assez naturellement, si tu veux. À la sortie de mon master, j'ai monté GEM. J'étais encore sur les bancs de mon master et j'avais absolument envie d'entreprendre, en fait. Et jour 1 où j'ai commencé à mettre les mains dedans, tu commences à goûter à la pluridisciplinarité des sujets et des tâches. Et en fait, ça répond à un besoin chez moi très ancré qui est la nécessité d'apprendre. Et depuis le jour 1 où j'ai commencé à entreprendre, j'ai pas cessé d'apprendre.
Et alors, comment tu te définis aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je me définis à travers le gramme. Je me définis vraiment à travers le gramme parce que c'est mon plus grand terrain de jeu et c'est celui qui me permet d'exprimer et d'exploiter tout ce que j'ai envie de faire, pleinement.
Très bien. Eh ben, on va rentrer dans le détail. Tu sais, donc ça s'appelle entreprendre dans la mode et j'aime bien tacler les différents piliers qui font une boîte de mode, une boîte de design, une boîte de joaillerie aujourd'hui. La première question, c'est la question sur le branding. Comment t'as travaillé ton branding, pourquoi le gramme déjà? Qu'est-ce que tu vends quand tu vends un bijou le gramme? Qu'est-ce que tu vends de plus qu'un bijou que cet objet-là? Et comment tu as réfléchi l'ADA en fonction de cette branding, en fonction de ce branding et de ce positionnement?
Alors tu n'hésites pas à me reprendre si jamais je ne réponds pas à toutes tes questions parce que là il y en avait plein.
Okay. Ouais, mais c'est ma spécialité. Ouais.
Et en plus c'est des questions qui sont pas légères. Ouais. la réalité c'est que moi j'ai monté le gramme en rencontrant, c'était une fois de plus une rencontre. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Adrien Messier. On a cofondé le gramme à deux. Aujourd'hui je suis seul à continuer l'aventure et à la développer. Mais on était deux et le nom de Le Gramme est venu de sa sœur à l'époque qui de façon très intuitive, moi je voulais absolument monter une marque de bijoux pour hommes, lui avait une idée d'un bracelet, on s'est associé et sa sœur nous a dit mais appelez ça Le Gramme dans le secteur, c'est une réalité, dans le secteur on parle le gramme et le poids des bijoux au gramme est crucial, du coup on trouvait ça génial. Enfin, ça a fait écho et si tu veux, c'était très fluide. Donc d'ailleurs, aussi bien autant le nom que le branding et que toutes tes questions quelque part, comment ça s'est fait et comment on l'a développé, il n'y a pas eu de stratégie posée définie. La réalité, c'est qu'on a fait tout ça et j'ai fait tout ça de façon intuitive. C'est d'ailleurs bien une des complexités aujourd'hui que moi, en tous les cas, je suis en train d'observer dans la partie opérationnelle, c'est que la taille de la société change, évolue, et on tend vers quelque chose de moins intuitif et de plus structuré. Ce qui est passionnant, mais ce qui change aussi la dimension de la société.
Parce que bon, vous avez fondé le gramme en 2013, donc ça remonte à ça fait 8 ans bientôt. J'imagine que c'est vrai que, et moi je le vis aussi avec ma marque d'une certaine manière et même avec Entreprendre dans la mode, c'est que au début c'est vrai qu'on fait des choses avec beaucoup d'intuition, avec ses tripes, etc. Et on se dit bon, je poserai sur papier tout ça plus tard parce que de toute façon ça sert à rien de poser les choses maintenant parce que tout va changer et ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. La question que je me pose c'est qu'à un moment donné, c'est sur ces 8 dernières années, t'as dû te reposer et on a dû te demander de te poser un certain nombre de fois parce que je sais que il y a la BPI qui est rentrée dans votre capital. Et à un moment donné, tous ces gens, ils aiment bien ce genre de ces brand book, ce branding, c'est qui tu es, tes valeurs, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous partager un petit peu ça, même si t'es pas complètement satisfait de ce qui est écrit dans ce brand book, qu'est-ce que tu vends? Parce qu'à un moment donné, on te demande de savoir ce que tu vends.
Non, non, j'en suis. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais j'en suis satisfait. C'est juste que je suis capable et je peux répondre à ta question maintenant. Je ne sais pas s'il y a 12 mois, j'aurais pu y répondre. Et, ouais. Et en l'occurrence, la BPI et nos actionnaires qui sont rentrés avant cela et les différentes personnes qui nous accompagnent, je pense qu'ils ont surtout, ils nous ont fait confiance à moi et à l'équipe dans notre capacité à développer la marque et à la piloter. T'as tout à fait raison, ce qui est vrai aujourd'hui, il n'est peut-être pas demain. Nous, ce qui est certain et ce qui drive pas mal beaucoup de nos actions et même nos recrutements, c'est l'agilité, par exemple. L'agilité, elle est nécessaire. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'au début, tout est très intuitif. On a des convictions. La conviction, c'était de devenir une marque dans la joaillerie pour hommes et de prendre une place de leader. Ça, c'était une conviction. Si on prend le marché, ces 20-30 dernières années, il y a eu deux marques qui ont émergé en tant que marque. Il y a eu Dinvan et Messika, qui sont des marques. Alors, Dinvan qui s'adressait peut-être un peu plus aux hommes de par cet esthétisme ou ces codes un peu plus minimal. Mais ça reste des marques pour femmes. Et c'est un peu les deux seules marques qui ont émergé en France en tant que telles. Même si Dinvan, eux, ils sont pas forcément très international, ou en tous les cas, ils sont pas au niveau de l'image qu'ils ont réellement. Ils pourraient être plus gros à l'international. J'étais du coup convaincu, si tu veux, qu'il y avait une place à prendre sur ce marché-là et sur ce positionnement. Et ça, c'est une conviction qui m'a jamais quitté. Ensuite, sur le qui on est une marque de bijoux pour hommes. Et ce qui a été plus dur à définir et ce qui nous a pris du temps, pour le coup, c'est vraiment ce travail sur la plateforme de marque et sur notre ADN, parce que c'était très intuitif au démarrage. Donc ça a été beaucoup plus dur de post-rationaliser la démarche, si tu veux, et de mettre des mots dessus. Mais ça a été un exercice passionnant qu'on a fait, qu'on a réalisé. Et aujourd'hui...
Vous êtes fait accompagner là-dessus ?
Oui.
Par qui ? Ouais.
Je t'ai pas entendu, pardon.
Non, non, je vous demandais si vous étiez fait accompagner et par qui, si tu peux nous partager un nom.
Non, on s'est pas fait accompagner. On l'a fait en interne. Je pense que pour ces sujets-là, en tous les cas, c'est ma conviction, mais pour ces sujets-là qui te touchent trop, il y a personne de mieux placé que toi et les gens en interne pour pouvoir y répondre. En tous les cas, ça répondra jamais à toutes tes attentes. Et nous, on a fait ce travail qui a été passionnant, qui est itératif, et comme tu l'as dit tout à l'heure, qui n'est pas terminé. C'est que ce travail, il est itératif et il va continuer à évoluer. Mais on a accouché d'un premier jet qui en tous les cas répond pas mal à nos attentes et qui nous a permis quand même de commencer à mettre des mots sur cette mission et ce qu'on faisait et ce qui nous animait, si tu veux, pourquoi on le faisait. On n'est pas là que pour faire des bijoux et au final, ce qui nous anime, c'est de les voir porter.
Trop bien. Aujourd'hui, comment vous recrutez des nouveaux clients ? Comment est-ce que vous faites connaître ? Est-ce qu'il n'y a que le bouche à oreille qui fonctionne ? Comment est-ce que vous grandissez en fait ? Comment vous faites rentrer des nouveaux leads chez Le Gramme ? Voilà, encore une fois, je suis désolé, hein, j'ai vraiment ce côté à poser 18 questions pour poser une seule question.
Comment on fait ? Nous déjà, il y a eu deux choses, il y a deux facteurs. Il y a un premier facteur qui est l'omnicanalité de notre distribution.
Ouais.
À l'inverse des marques du secteur, qui est un secteur un peu plus poussiéreux ou en tous les cas un peu plus conventionnel, qui a tendance à être un peu plus plus monocanal qu'omnicanal. Nous, on est né de la mode et on est assez moderne par rapport aux marques du secteur. Donc, on a cette omnicanalité, on a 5 réseaux de 5 vecteurs de vente. On a nos boutiques, notre e-shop, le réseau HBJO, c'est les bijoutiers joailliers traditionnels. On a les revendeurs mode, donc concept store et department store dans 22 pays. Et on a nos corners au sein des department stores. Donc, si tu veux, tous ces vecteurs-là, ce sont des canaux de recrutement de nouveaux clients. Et d'ailleurs, c'est un écosystème vertueux. On vend en ligne et on est capable de vendre en ligne de cette façon aussi parce qu'on est revendu dans les bonnes boutiques qui sont une réassurance pour certains clients. Moi, j'ai toujours une hérésie pour les marques qui cachent leur réseau de distribution sur leur site internet. Ça existe encore. Je trouve ça lunaire, en fait, parce que le réseau de distribution de la marque est au service de la marque. Donc, il y a aucun intérêt à le cacher. En tous les cas, je le vois pas. Donc, il y a ce réseau de distribution et cette omnicanalité qui est natif chez nous. Et après, sur la partie recrutement, une fois de plus, tout était très intuitif au démarrage. Donc nous, on a drivé notre croissance en rythmant notre développement avec nos sorties produits qu'on présentait à chaque Fashion Week et avec les ouvertures de magasins au démarrage qui étaient plutôt un réseau de distribution mode. Donc concept store, department store, on a tout de suite été très international puisqu'on a fait 70% de notre chiffre d'affaires à l'export dès la première année et on a maintenu ce pourcentage jusqu'à 60% en 2020. Donc on a toujours une forte appétence à vendre à l'export. C'est un peu, ça a été en tous les cas notre premier canal de la distribution a été notre premier vecteur de recrutement. Après, on a aussi fait des rencontres, et en l'occurrence, moi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a marqué, qui est Jacques Birol, qui était le directeur marketing de Coca et qui accompagne quelques grosses sociétés dans la structuration de dans la définition de leur cible et la structuration de leur plateforme de marque. Et ce monsieur, moi, m'a marqué et on a fait quelques workshops avec l'équipe qui bossait sur la plateforme et sur la cible avec lui. Et ça a été passionnant, vraiment passionnant sur la définition de notre cible et du parcours client, justement, sur la phase de recrutement et de où est-ce qu'on allait mettre notre énergie par rapport à notre stratégie.
Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus sur le parcours client et où est-ce que vous avez mis votre énergie?
Mais avec plaisir, mais j'ai une anecdote par rapport à ça, et ça a été une des catchlines de Jacques, c'est que j'ai trouvé génial. Il a quelques exemples, si tu veux, dans son expérience, de par son expérience, qui sont très marquants, dont celui-ci. Je vais te poser la question, du coup. À quel moment que tu penses que les Français achètent leurs vacances d'été?
En plein hiver, quand ils sont au fond du trou.
Alors, je crois qu'il me semble que j'avais répondu comme toi. En l'occurrence, un jour dans l'année. Donne-moi un jour. Parce qu'il y a un jour où plus de 60% des Français achètent leurs vacances d'été.
Oula. Je sais pas. Moi, je me dis que ça peut être. Alors, soit le 1er novembre, le jour le plus terrible de l'année, le plus lourd, ou le 11 novembre, tu vois. Ou sinon, je me dis peut-être qu'ils sont assez procrastinateurs et en fait, c'est la veille de partir en vacances. Je sais pas.
Alors, dans les deux, j'étais un peu comme toi. Figure-toi que c'est le dernier jour de l'année N, des vacances d'été, où ils achètent pour l'année prochaine N+1.
Ah, c'est ouf. Ok. Bon, ils sont assez prévoyants, finalement.
Alors, écoute, ce qui est dingue, c'est que moi, je l'ai fait. L'année dernière. Et il y a deux raisons à ça, ce qu'ils ont pu observer en faisant une étude de leur cible. La première raison, c'est le fait de poursuivre le kiff, de se dire tu rentres, c'est un badge, je vais rentrer, les vacances sont terminées, j'ai envie, je poursuis un peu mon plaisir en achetant les vacances tout de suite pour l'année prochaine. Et la deuxième raison, c'est je rentre et je suis le père de famille qui pense à tout, j'ai déjà acheté les vacances de l'année prochaine. Et ce qu'ils ont pu observer en tous les cas, c'est que du coup, en faisant ce travail, ils se sont dit, on va peut-être pas faire de l'achat média ou autre. En l'occurrence, c'était une société précise. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait deux actions. Ils ont mis des personnes sur les forums pour parler de leur entreprise pendant l'été. Et ils ont, à leurs clients en repeat business, à leurs clients, à leur portefeuille client actuel, ils ont mis des prospectus de réduction pour l'année prochaine sur leurs oreillers pour la dernière nuit. Et ils ont fait plus 70 ou 80% de croissance à partir du moment où ils avaient commencé ces actions. Tout ça pour te dire que, et des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns, en l'occurrence, ils nous en avaient cité plusieurs, qui sont tous aussi parlants les uns que les autres. Et nous, je me suis dit, et donc c'est toujours la même chose dans ces cas-là, je me suis dit, ok, mais nous, à quel moment ça s'applique à nous? Et figure-toi que nous, il y avait un moment dans l'année sur notre e-commerce où les ventes, on observait un pic de ventes et on ne comprenait pas pourquoi spécialement il y avait un pic de ventes à ce moment-là. C'était les premiers beaux jours. Donc début de l'été, mai, juin. Ouais. Et en fait, on a observé que dans notre parcours client, le déclenchement de l'achat se faisait les premiers ponts des beaux jours, le moment où tu commences à avoir les bras dénudés et où tu as envie de te faire plaisir. Et à partir de ce moment-là, c'est assez passionnant parce que du coup, tu vas aussi orienter toutes tes actions marketing et communication au prisme de ton parcours client et de ce moment-là.
Donc, mais c'est dans les proportions, vous faites tout votre business sur les premiers beaux jours d'été ou proportions ?
Non, on a une saisonnalité qui suit les marronniers assez classiques avec, nous en l'occurrence chez Le Gramme, on est vraiment un cadeau pour homme. Donc, on a vraiment une saisonnalité avec un gros pic à Noël, un autre pic avec la fête des pères et puis une courbe plus croissante au début des beaux jours qui se poursuit tout au long de l'été.
D'accord, ok, trop bien. Et parfait, c'est passionnant ce que tu nous racontes. Merci beaucoup. Sur l'acquisition, j'ai bien noté que votre réseau de distribution était assez extraordinaire finalement. C'est vrai que on a souvent eu tendance à confronter le direct au consumer au wholesale, etc. Pour le coup, en ce qui te concerne, sur des produits qui sont plutôt chers, parce que c'est quand même de la joaillerie, hein, c'est pas des petits bijoux qui coûtent 100 €. Il y a un vrai intérêt à avoir un réseau de distribution. D'après toi, dans ce réseau de distribution, comment t'as réussi à conquérir aussi rapidement autant de gens? Pourquoi ça leur a plu? Pourquoi ils trouvaient pas ils avaient, enfin, j'imagine que. Enfin, pourquoi, d'après toi, ça a fonctionné assez rapidement?
Alors, je vais y répondre juste pour revenir rapidement sur ce que je viens de te dire et l'anecdote. C'était surtout, en ce que ça sous-tendait, c'était surtout l'importance de bien connaître sa cible. Et moi, trop longtemps, on me parlait de la cible et on a eu, tu vois, tendance à mettre dans nos présentations et autres une cible. Qui est un mec urbain de tel âge à tel âge, qui vit en zone urbaine, qui gagne tant. Et c'est vrai qu'avec Jack, ça a été quand on a fait ce travail et qu'on a eu la chance de rencontrer cette personne, ça a été un électrochoc sur ce travail-là, puisqu'il nous a dit « Non mais les gars, votre cible, c'est pas une cible, c'est un râteau. Une cible, c'est un prénom, un nom, un âge, c'est un salaire, c'est une situation familiale, et ça, c'est votre cible. » Et c'est pour ça, enfin... Je te parlais de ça pour cette raison-là, c'est qu'à partir du moment où tu connais ta cible, tout devient beaucoup plus fluide. J'en parle très rapidement, mais il nous avait donné son premier argument et son premier exemple qui moi m'avait marqué. Mais c'est il a travaillé, il avait accompagné pendant quelques temps une société qui imprime des photos. Ouais. Et la personne, pour le coup, la société qui imprime des photos, donc pas CopyTop, mais ce genre-là pour les photos uniquement, tu pourrais te dire que la cible, elle est quand même très large. Et le fondateur de cette société, quand il travaillait avec Jacques, il lui a dit « Mais ma cible, c'est un peu tout le monde. Tout le monde vient imprimer ses photos. » Et Jacques lui a dit « Non, t'as une cible. Il faut savoir qui elle est, qui est cette cible. » Et il a commencé un travail où il a commencé à aller dans ses boutiques et à discuter avec ses équipes de vente et avec son personnel et à dire « Mais est-ce que vous savez qui est notre cible? Est-ce qu'on a une cible ?» Et ils lui ont dit « Bah non, c'est un peu tout le monde. » Du coup, il est passé dans les chambres noires et il a commencé à observer les photos qu'il tirait. Il s'est rendu compte que sur 80% des photos, il y avait un bébé. Et que dans ces bébés, c'était surtout une famille et c'était surtout, en l'occurrence, le premier bébé. Donc en fait, sa cible, c'était la mère qui venait d'avoir son premier enfant. Et si tu veux, ce travail-là, une fois que tu l'as fait, derrière, toutes tes actions sont totalement différentes et plus fluides. Et en ça, ça rend le sujet vraiment passionnant. Moi, j'ai toujours eu du mal avec la partie marketing. Donc lui, il nous a permis de rendre la chose beaucoup plus concrète. Pour moi, c'était beaucoup plus dense. Pour répondre à ta question sur la partie réseau de distribution et faire connaître la marque. Ouais.
Juste, je te coupe, pardon, parce que j'ai envie d'approfondir ce que tu viens de nous raconter. Sur la cible, vous aujourd'hui, c'est qui votre cible? Et Deuxio, comment vous avez réussi à l'identifier? Parce que autant le photographe, je comprends comment il arrive à l'identifier, autant toi, comment est-ce que tu arrives à l'identifier? Parce que quand tu as une commande sur internet, c'est une chose. Alors quand tu vends directement à quelqu'un, bah tu sais d'où il vient, tu vois à peu près quel âge il a ou pas d'ailleurs, parce que quand tu reçois une commande sur internet, c'est pas si simple de remonter toutes ces informations là. Mais encore plus difficile pour toi, c'est quand c'est revendu par un revendeur, tu sais pas à qui ce revendeur vend, à part tu auras peut-être de l'information un peu quali en posant la question au vendeur dans ton réseau de distribution. Mais comment vous avez réussi, vous, à mettre le doigt sur ma cible, c'est Jean-Michel, il a 35 ans, il vit à Paris ou en tout cas dans une grande ville, il fait ça comme métier, etc., etc., etc.
C'est une très bonne question. Nous, ce qu'on a fait, c'est que on a avant tout analysé la data et on a été sur le terrain et on a posé des questions à nos vendeurs. Alors là où tu as raison, c'est qu'il faut son réseau de distribution ou son e-shop pour pouvoir identifier sa cible. Si tu ne travailles et si tu ne fonctionnes qu'à travers des wholesalers ou des revendeurs, c'est extrêmement difficile, voire impossible de connaître tes cibles. Ça, c'est certain. Nous, on a fait ce travail-là pour pouvoir identifier notre cible et pour pouvoir savoir surtout qui achetait nos bijoux. Et ça, il faut faire du terrain. Clairement, il faut faire du terrain et il faut être en contact avec ses équipes de vente. Il n'y a que par là que ça peut passer.
Ok. Et vous, alors, c'est qui votre client ?
Et nous, on a identifié deux cibles. En l'occurrence, on a une première cible qui est Olivier, qui a 38 ans et qui vit dans le 9e et qui n'est pas forcément un fan de bijoux, mais en tous les cas, qui a toujours eu envie de s'accessoiriser et qui est venu au bijoux de par cet esthétisme minimal qu'on propose, qui n'est pas trop engageant et qui coche un peu toutes les cases de la réassurance pour lui, de se dire « je ne prends pas trop de risques à porter un bijou le gramme, il est plutôt bien pricé ». Pour répondre à ta question tout à l'heure, on est dans la joaillerie, mais nous, on a un panier moyen qui est plutôt accessible à 350 euros.
Ok.
Il est personnalisable et il est vendu à travers un réseau de distribution qualitatif qui est aussi une réassurance, en plus du fait d'être conçu et produit en France. Et c'est un peu pour les mêmes raisons qu'on répond aux attentes de notre deuxième cible, qui là est Emmanuel. Et c'est Emmanuel, c'est une mère qui veut acheter un cadeau à son fils.
Ok.
Et là, c'est pareil. On coche un peu toutes les cases du cadeau pour homme, si tu veux, qui va répondre à ses attentes.
Ouais, qui n'est pas trop engageant. Ok.
Tu prends pas trop de risques. C'est un esthétisme marqué. Tu vas prendre un peu plus de risque à l'offrir. Mmh.
Ouais.
Nous soit on peut s'offrir à un primo accédant aux bijoux, soit on peut s'offrir à quelqu'un, se faire offrir à quelqu'un qui a déjà des bijoux et on va s'accumuler très facilement de par notre esthétisme.
Ok. Et deuxième question, c'est comment tu vas chercher Olivier et comment tu vas chercher la maman? Après, tu vas les cibler, vous faites un peu de Facebook Ads, vous allez les chercher où ces gens?
Ouais, alors nous on a un plan de communication et un plan marketing qu'on a développé avec le temps et on a une multitude d'actions. Évidemment aujourd'hui, que ce soit sur la partie digitale avec Instagram, Facebook et pas que, on a aussi des actions de retargeting, on a des actions de mailing, on a du offline aussi. On a commencé les achats presse de pages de pub dans 6 supports l'année dernière. Cette année, on va commencer une campagne de co. Dans Paris.
Okay.
Donc on a vraiment, pour le coup, on a plein d'actions qui sont plus ou moins locales et à plus ou moins grande échelle, mais tous avec tous au service de la même cause, de faire connaître la marque et d'amener à.
Ouais. Je vois aussi, vous avez un programme ambassadeur sur votre site. Enfin, un programme ambassadeur, c'est pas un programme ambassadeur, mais si vous avez des ambassadeurs, voilà, qui sont des personnalités influentes du monde de la mode ou de la créa, ou pas que d'ailleurs, je sais pas, je les connais pas tous, mais j'en connais quelques-uns, et j'en ai interviewé quelques-uns d'ailleurs, ou je vais en interviewer quelques-uns, et pourquoi, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche pas, est-ce que tu offres des bijoux à ces gens, ou est-ce que tu leur fais une ristourne, comment ça fonctionne, explique-nous.
Alors, certains, un peu les trois, certains sont déjà clients ou étaient déjà clients, d'autres, on a été amené à leur offrir un bijou ou tout simplement ils ont voulu en acheter et on leur a fait une remise. Là-dessus, on est assez transparent et assez souple, mais c'est avant tout des rencontres. Ce qui nous intéresse, c'est l'échange qu'on peut avoir et le regard qu'ils vont avoir eux. Sur la création et sur leur parcours. Et en ça jusqu'à maintenant, une fois de plus, on va revenir à la même sur le même sujet, mais ça a été assez intuitif en fait. Ça s'est fait avec notre réseau proche et avec des gens qu'on admirait dans ce qu'ils avaient entrepris sur Alors le prisme créatif est quand même très fort. C'est souvent des gens qui sont amenés à créer ou à être proches de la création.
Est-ce que tu arrives à mettre un chiffre sur ce que ça ramène, ce que ça rapporte? Est-ce que c'est que de l'image? Et est-ce qu'ils s'engagent à parler de vous? Enfin, est-ce qu'il y a un deal entre vous ou pas du tout?
Non, il y a zéro deal. Il y a zéro deal si ce n'est de prendre du plaisir et okay. de passer un bon moment. Il n'y a pas de deal, il n'y a aucun engagement. C'est avant tout une rencontre et un échange à un instant T. Nous, ça nous permet aussi de pouvoir incarner la marque avec des personnalités qui nous touchent et qui nous parlent. Avoir des chiffres sur des retombées de ce que ça peut nous rapporter, non, on n'en a pas et on ne l'a pas quantifié comme tel. Parce que je vais te dire, même si on avait été déçus en le faisant sur le fait de quantifier ces retombées, on continuerait à le faire parce que je trouve l'exercice génial et c'est que des rencontres incroyables à chaque fois.
Trop bien. Je vais te poser une question aussi un petit peu à la... Toujours, je suis toujours dans mon esprit growth à fond, growth hacker, etc., growth maker. Il y a un podcast ami qui s'appelle Growth Makers et il pose toujours cette question, c'est sur ces 8 dernières années, quel a été ton hack qui t'a permis de faire un bond en avant sur l'acquisition? Est-ce qu'il y a une action que tu as mis en place une stratégie d'acquisition qui vous a vraiment qui a été très très successful pour vous, quoi?
Il y en a qu'une.
Ouais.
Ouais.
C'est quoi?
Le rythme.
Le rythme.
On a mis du rythme.
Ok. En fait, ça veut dire quoi? Vas-y.
Nous, on est tellement des tarés du détail qu'on était arrivé à un stade, je pense, où on avait peur de faire, où on voulait pas faire si c'était pas fait parfaitement. Et à partir du moment où on s'est décomplexé de ça, et ça c'est pour le coup la personne qui m'accompagne, mon mentor qui m'a vraiment accompagné dans cette démarche et qui m'a émancipé de ça, qui m'a dit mais done is better than perfect, juste faites. Faites et vous allez apprendre. Et à partir du moment où on a commencé à faire ça, déjà on a pris goût et ça a tout changé. En fait, ça a tout changé. D'ailleurs, à partir du moment où on a commencé à faire, on a fait 100% de croissance.
Ça veut dire quoi mettre du rythme? Parce que vous, à l'époque, j'imagine que vous sortiez une pièce tous les 36 du mois parce que vous étiez tellement taré du détail, il fallait que ça soit tellement parfait qu'il y avait assez peu de produits. Et alors que là, vous avez dit maintenant on en sort un tous les, une fois par mois ou une par saison. C'est quoi le rythme d'ailleurs?
Non, mais t'as complètement raison. Et d'ailleurs, pour revenir, on va reboucler avec ta question à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure sur mais vous êtes allé assez vite, vous avez ouvert un réseau de distribution très qualitatif et je t'en remercie. Oui, la réalité, c'est qu'on a vraiment un portefeuille client de revendeurs qui est un des plus beaux et c'est aussi pour ça que la BPI est rentrée si tôt dans le capital. Mais la réalité, c'est qu'on a mis du temps et qu'on a pris notre temps. La stratégie, c'était au démarrage, on n'avait pas de site internet pendant 2 ans et demi. Alors, il y a plein de gens que je croise dans la mode qui me disent qu'on a une image trop cool et qu'on était trop cool parce qu'on n'avait pas de site. Mais la réalité, c'est qu'on savait juste pas faire de site et qu'on était débordé avec nos 10 boutiques à gérer.
Ouais.
On a vécu pendant 3 ans sans site internet et avec une seule collection de 15 références. Ce qui peut sembler complètement utopique, mais en même temps, ça nous a permis d'asseoir la marque et d'acquérir une certaine légitimité sur la partie ADN de marque et positionnement. Donc à refaire, je referais pareil, mais je ne sais pas si j'aurais le courage de le refaire.
Ouais, parce que tout ça prend vachement de temps. Comment dire, aujourd'hui vous avez donc une boutique en propre, hein, 623 rue Vieille du Temple, dans le 3e.
Ouais, aujourd'hui on en a 3. Okay. On a le Marais, on a une boutique rue Saint-Honoré et on a une boutique rue Bonaparte dans le 6e. Okay. Ouais, on a 3 boutiques et pardon, je t'ai coupé.
Non, pas du tout. Ouvrir des boutiques, ça coûte cher d'ouvrir des boutiques. Qu'est-ce que ça a changé pour vous parce que vous les avez pas ouvertes tout de suite, il me semble. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais qu'est-ce que ça a changé quand vous avez ouvert vos premières boutiques et pourquoi c'est important d'avoir des boutiques alors même que je trouve que vous, enfin même si au début vous aviez pas de site internet, on sent que c'est quand même une marque qui est moderne, qui se vend vachement sur internet, etc. Et que les hommes a priori sont plus enclins à acheter sur internet que ils n'ont pas forcément ce besoin d'essayer. Alors peut-être que je me trompe, hein. Je fais des raccourcis, mais tu vas m'expliquer.
Bah écoute, ce qui a changé, c'est que surtout, moi, j'ai kiffé. Je me suis fait plaisir parce que j'ai toujours voulu dessiner des lieux. J'ai été amené depuis 5 ans d'ailleurs à dessiner pas mal de lieux, soit pour des amis en privé ou pour des bureaux. Et là, j'ai kiffé, j'ai dessiné ma première boutique. Donc ça a changé ça déjà, et ça a permis aussi de, au-delà de répondre à mes névroses, de toucher à tout et de rentrer dans le moindre détail, ça a surtout permis de pouvoir s'exprimer et d'exprimer nos codes pleinement. C'est assez frustrant quand même juste de poser un display dans une boutique et une quinzaine de produits. Là, on raconte vraiment tout notre univers, nos codes et toutes nos collections. Donc, si tu veux, t'es vraiment enveloppé par la marque. Et je pense, d'ailleurs, quand on observe un peu les business models, même les business models pure player online, ils viennent quand même tous à développer un peu de retail. Soit en soutien soit dans une logique d'omnicanalité, en soutien du digital, soit dans une logique d'expression de marque. Mais en ça, je pense que c'est d'autant plus vrai pour une marque de joaillerie où t'as quand même, c'est pas la même chose de voir les pièces et de pouvoir les toucher. C'est pas la même chose de se faire présenter la marque par quelqu'un qui maîtrise aussi les codes de la marque et son histoire. Donc, une fois de plus, on a besoin des revendeurs mode, on a besoin des revendeurs spécialisés, bijoutiers, joailliers. On a besoin de notre site internet, mais je pense que nos boutiques contribuent à cet écosystème. En tous les cas, aujourd'hui, les chiffres parlent pour nous et vont dans ce sens, puisqu'on performe vraiment au sein de notre retail.
Ouais, ok. Aujourd'hui, en fait, il y a un truc que j'arrive pas du tout à me rendre compte, est-ce que tu peux nous partager vos chiffres en termes de volume de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que vous faites? Et une autre question, t'es pas obligé de m'y répondre, ou en tout cas, tu peux peut-être y répondre plus généralement, de façon plus générale. C'est quoi les COEF multiplicateurs dans votre métier? Dans le direct consumer, dans la mode, on parle de 2,5, 3. Quand on a des revendeurs, on parle plutôt de 7, 8, voire beaucoup plus dans le luxe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce modèle?
Alors, je vais essayer de rien oublier. Donc, pour répondre à ta question, je vais commencer par une réponse suisse qui n'est pas du tout mon tempérament, mais sur la partie chiffre d'affaires. On entame là en ce moment une grosse levée de fonds. Du coup, je vais pas pouvoir répondre à cette question-là de façon transparente. Ce que je peux te dire en tous les cas, c'est qu'on fait 100% de croissance depuis 3 ans et on vient de réaliser 70% de croissance en 2020 en pleine année Covid. Donc, on est hyper content. Aujourd'hui, la marque est vendue à travers 150 revendeurs dans 22 pays. Et pour répondre à ta question sur la partie COEF multiplicateur, dans notre secteur, le COEF multiplicateur, il se situe entre 1,8 et 2,5, parfois un peu plus, mais c'est assez rare. Nous, on propose 2.5 à tous nos revendeurs, sauf sur les bijoux en or, sur lesquels la marge peut être un petit peu inférieure. Elle peut osciller entre 2 et 2,2 en termes de COEF pour eux.
Ok. T'as mentionné plusieurs fois le fait que vous avez fait rentrer des fonds dans votre capital. Pourquoi c'était nécessaire? Est-ce que vous pouviez pas vous développer sur fonds propres? Explique-nous ce choix et qu'est-ce que ça vous a apporté et pourquoi encore faire une nouvelle levée de fonds? Qui a pris goût, levée de fonds, j'ai l'impression.
J'aurais adoré pouvoir le faire en fonds propres. Du coup, soit c'était très mal géré, soit plus sérieusement, je pense qu'on a eu une croissance trop forte, ou en tous les cas qu'il fallait financer cette croissance. On est dans un secteur, nous en tous les cas dans le bijou, qui est assez consommateur de cash, qui a un besoin qui engage un besoin en fonds de roulement assez important, ne serait-ce qu'en stock. Donc assez rapidement, si tu veux, on a été confronté à cette problématique de gestion qui est devenue passionnante parce que ta matière première suit un cours, parce qu'on produit tout en France, parce que pour plein de raisons. Mais on a été confronté assez rapidement à cette nécessité de lever des fonds et aussi pour atteindre nos objectifs et pour donner à ce projet l'ambition qu'on y mettait.
C'est quoi d'ailleurs l'ambition, vous?
L'ambition, c'est de devenir le leader de bijoux pour hommes, la marque leader à l'international. Je pense qu'on a une vraie carte à jouer en tant que marque française dans la joaillerie et encore plus en s'inscrivant pour hommes. Aujourd'hui, j'en connais peu ou pas.
Et pour mettre peut-être une image encore plus forte, c'est quoi? C'est devenir aussi gros qu'un Cartier. C'est vraiment devenir un mastodonte de la joaillerie pour hommes.
Qu'un Cartier, ça serait génial, mais connaissant leur taille, c'est presque utopique. En tous les cas, eux, ça leur a pris plus d'un siècle. Nous, clairement, je pense que tu peux atteindre des tailles déjà de tu vois, qui se situent entre Fred, Dean Van, David Urman ou John Hardy, et devenir le leader des bijoux pour hommes, ouais. Mm-hmm.
Trop bien, et c'est vachement ambitieux et c'est hyper excitant. Comment tu t'es entouré dans tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien chez Le Gramme? Et là, une autre question aussi qui m'est venue tout à l'heure que j'avais notée, c'est pourquoi vous êtes séparé avec ton premier associé, avec Adrien? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a changé finalement? Parce que enfin, pourquoi vous avez divorcé est-ce que ça t'a donné des ailes? Ça t'a rendu encore plus ambitieux? Parce que finalement, on dit souvent on est plus fort à plusieurs. Je sais plus c'est quoi l'adage, peu importe. Mais on va plus loin accompagné, mais on va plus vite tout seul. Qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Ouais. Pour revenir sur la partie association, on s'est séparés parce qu'il y avait une divergence de vision et de facto de stratégie, et aussi parce que j'ai une grande gueule et un gros caractère et que je pense que c'est pas facile de trouver sa place à mes côtés. Ça, c'est une réalité. Okay. Donc, si tu veux, ça mélangé à une divergence de vision, il a pris la décision que je respecte énormément et qui demande beaucoup de courage de dire qu'il ne s'inscrivait plus dans le projet. Et ce que ça a engendré de mon côté, tu l'as dit, c'est que ça a tout libéré. Je suis passé du jour au lendemain de me regarder le nombril et me plaindre de mes problèmes à « ça y est, maintenant, il n'y a plus qu'à ». Donc en fait, ça a tout libéré et ça a permis d'enclencher toutes les briques et tout s'est développé assez rapidement. Donc
très bien.
Par rapport à ça, par rapport à l'association, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je pense pas que ça soit une généralité, même si je pense que l'association, c'est en général compliqué. En tous les cas, ça demande un réel travail de communication et d'effort. Et sur le fait de s'entourer, en l'occurrence, la BPI a joué un rôle majeur dans les personnes qui nous entourent. Et moi, j'ai choisi mes référents, si tu veux. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes exceptionnelles dans des secteurs différents qui sont devenus assez proches du projet. Donc, j'ai comme ça autour de moi 2-3 personnes, dont mon mentor, une personne dans le digital, une personne dans la partie gestion, et puis mon mentor. Et ces 3 personnes m'accompagnent de façon assez assidue. Mon mentor, tu vois, je le vois toutes les semaines, et je pense que je l'ai au téléphone 3 à 5 fois par jour.
Ah oui. Ah oui, c'est un job de mentor à plein temps, la vache.
Ouais, je le cannibalise un peu parfois, mais c'est devenu une relation, si tu veux. Il y a un lien très fort.
Ok. Tu peux nous donner leur nom à toutes ces personnes?
Mon mentor, c'est Jacques Lévy, et on est aussi accompagné, on a la chance d'être accompagné par une autre personne sur la partie digitale qui s'appelle Elena de Signori. Mm-hmm. Et puis après, on a quelques autres personnes, si tu veux, qui nous accompagnent sur des sujets plus spécifiques. Mais pareil, dans lequel la BPI a joué un rôle très fort. Là-dessus, ils sont extrêmement actifs et c'est vraiment un actionnaire génial.
J'ai l'impression que ça a changé beaucoup de choses pour toi. À quel moment la BPI est rentrée chez Logram et au-delà du cash et du réseau et des bonnes personnes pour t'accompagner sur les différents sujets clés, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre?
Écoute, oui, alors ils sont rentrés, ils ont eu la folie de rentrer hyper tôt et je les respecte énormément pour ça et j'espère très prochainement que ça leur aura donné raison parce que le développement de la société pour l'instant est dans ce sens. Ils sont rentrés il y a 4 ans, la BPI. Ce que ça nous a apporté, ça a conforté la confiance qu'on avait dans le projet. Puisque quand t'es tout seul, même si t'as des convictions, c'est quand même pas la même chose d'être coopté par des personnes extérieures qui vont valider le projet et ta vision. Ouais. Et puis après, au-delà de l'argent, c'est surtout un soutien. C'est que ça te permet aussi de mettre en place des process, de confronter tes idées, de confronter ta stratégie. Et si t'arrives pas à faire valider tes idées, c'est que tu les as pas bien amenées, ou alors qu'il y avait des sujets qui étaient bancals.
Ouais, ça te force à bien formuler, à bien réfléchir et à prendre le temps de prendre un peu de recul et de hauteur avant d'actionner les choses, quoi, et de prendre du feedback surtout.
Ouais, moi c'est comme tel, mais j'ai un peu appliqué cette démarche avec Jacques. Comme je te dis, on s'appelle tous les jours. Je pars du principe que dès que j'ai un sujet que je veux pas partager, je partage tout avec lui, en l'occurrence. Et dès que j'ai un sujet que je veux pas partager, c'est que je suis pas à l'aise pour le défendre.
Ouais. Okay.
Donc, dans cette mesure-là, c'est un exercice génial parce que du coup, ça t'oblige et ça t'impose d'exposer tes idées avec des arguments et d'être compréhensible.
Ouais, bien sûr. Ouais, je vois très bien. Sur un point qui me paraît important pour moi, enfin c'est une vraie question, c'est la partie logistique sur les bijoux. Comment vous gérez ce truc là? Est-ce que vous l'avez externalisé? Parce que c'est quand même des objets qui valent beaucoup d'argent. Comment vous l'avez traité? Et puis une deuxième question qui est assez proche, c'est le customer success, ou en tout cas le service client, pardon. Comment vous assurez de proposer un service client de Maboul qui soit à la hauteur de vos produits? Et comment est-ce que vous gérez les clients qui sont pas contents, pas satisfaits? Comment est-ce que vous faites pour les rattraper? Alors, encore une fois, il y a 18 questions en une question.
J'adore. Alors, sur la partie logistique, ça s'est fait une fois de plus avec des rencontres et de manière assez intuitive. C'est même venu de l'équipe en interne. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas terminé de répondre à ta question, mais pour revenir sur l'équipe, aujourd'hui chez Logram, on est à peu près une trentaine, et en fin d'année prochaine, on devrait être entre 40 et 45.
Ça commence à devenir sérieux là. Hein.
Pardon?
ça commence à devenir costaud, quoi. Enfin, t'es plus un manager qu'un entrepreneur, quoi. Enfin, tu deviens vraiment un manager et t'as beaucoup de gens à gérer, quoi. Donc, c'est un vrai gros business.
Ouais, ça devient, en tous les cas, ça change de dimension. Ce qui est à la fois grisant et génial, mais ce qui est aussi très effrayant parce que c'est moins intuitif, parce que c'est moins familial aussi. On essaye de garder notre ADN et nos codes sur la partie managériale, mais cette croissance nous impose d'être plus structurés. Ce qui est passionnant, mais pas simple à opérer. On discute beaucoup en ce moment avec une des personnes qui nous accompagne, qui s'appelle Nathalie François-Pavlovski, et qui elle est passée par là sur des croissances de sociétés de 1 à des dizaines de millions, et sur comment est-ce que tu opères cette bascule et opérationnellement quels écueils tu peux éviter. Sur la partie logistique, c'est un peu venu de l'équipe. On a trouvé assez rapidement un logisticien. Enfin, je te rassure, on a quand même essuyé pas mal de plâtre avec 3 logisticiens qu'on a quittés, jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Une fois de plus, on n'est pas sur des paniers moyens qui sont si importants que ça, nous. De par notre panier moyen à 350€ au global, oui, on a des pièces en or qui sont un peu plus chères, mais parfois, si tu prends nos produits versus le stock d'Isabelle Marant ou de certaines marques de haute couture, on a des produits qui sont moins chers que leur veste ou que leur pièce d'exception. Okay. Et pas que, d'ailleurs. Okay. Donc, on travaille chez un logisticien qui, en l'occurrence, travaille avec des marques de mode aujourd'hui. Ouais. Et on a... customiser un peu notre service logistique. Je t'avoue que c'est un chantier qui est tout aussi itératif que la plateforme de marque et qui va être amené à évoluer dans les mois et dans les années qui viennent. On a pas mal d'idées à ce sujet et la croissance nous l'impose aussi. Et après, sur la partie service client, c'est un vaste sujet. Alors, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que je le répète au quotidien, mais nous, on sauve pas des vies, on vend juste des bracelets. Donc, le client, si tu lui fais pas vivre une expérience un peu différente ou un peu sympa, il a aucune raison d'être marqué par l'acquisition d'un bracelet chez nous. En ça, j'ai à la fois tout dit et rien du tout. Moi, j'ai été marqué par un livre qui s'appelle The Zappos Experience, qui est c'est un peu le Zalando américain, qui s'est démonté au début des années 2000. Et qui a explosé en 10 ans à faire presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires racheté par Amazon, avec un prisme autour du service client et une stratégie orientée service client qui était complètement dingue. Nous, j'ai pas la prétention qu'on fasse la même chose, mais en tous les cas, on tend vers ça. J'essaye de l'inculquer et d'en être le gardien. Pour te donner des exemples, les clients qui sont pas contents, par exemple, j'ai mis un process en place pour que on me remonte tous les mois les clients qui se sont manifestés de façon en étant mécontents. Et peu importe la gravité du sujet. Et tous ces clients, je les appelle un par un chaque fin de mois, moi-même personnellement, pour essayer déjà leur présenter mes excuses au nom de l'équipe ou au nom de la marque. Et pour surtout essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, c'est assez génial. C'était un des cofondateurs de Vente Privée qui est dans notre capital, qui nous avait donné ce tips et qui nous avait dit au début de Vente Privée, on appelait tous nos clients qui étaient insatisfaits et on a découvert des choses incroyables. Et ça lui a complètement donné raison parce que nous, j'ai découvert des choses, des sujets sur lesquels je pense j'aurais pu mettre des années à les découvrir, où là, on a gagné un temps fou. Parce que on avait le prisme consommateur qui était non les gars, ça s'est mal passé pour telle raison. Donc et ça c'est exceptionnel parce que tu crées un lien avec les clients parce qu'ils se sentent considérés parce que pour moi en plus il n'y a pas une meilleure occasion que d'avoir été mécontent pour pouvoir surprendre quelqu'un.
Ouais, c'est clair.
Et renverser la vapeur, si tu veux.
Bien sûr. Et ça, aujourd'hui, t'arrives à le faire une fois par mois. Alors, je me rends pas compte du nombre de clients que vous avez et si c'est enfin j'imagine que voilà pour avoir une trentaine d'employés etc, c'est que vous commencez à avoir un petit peu de volume. Ça représente combien de personnes chaque mois à appeler, parce que c'est quand même fou que le fondateur ait le temps encore au stade où vous en êtes de le faire. Et à un moment donné, demain, quand vous serez trop gros, tu pourras plus le faire. Comment tu vas le gérer?
T'as complètement raison. Alors, je te rassure, l'année dernière, à titre indicatif, on a vendu un peu plus de 30 000 produits. La chance que j'ai, c'est soit on me remonte pas toutes les infos, soit il y a peu de clients mécontents. Donc, okay. Du coup, c'est encore réaliste. J'arrive encore à le tenir. Parfois, c'est plus dur. C'est plus difficile qu'à d'autres moments. C'est certain, surtout pendant les périodes de fêtes où il y a des pics de vente. Je dois t'avouer que c'est assez fluide dans la mesure où ça nous permet quand même, en faisant cet exercice, de renvoyer un message à toute l'équipe qui est que tout le monde se sente concerné par le sujet. C'est-à-dire que si je ne le faisais pas, je ne sais pas si toute l'équipe serait aussi concernée par le sujet. Du coup, derrière, tu renvoies un message à l'équipe qui est « Non, attends, ce sujet-là, ça va remonter jusqu'à lui ». Donc, on va y accorder une certaine attention. Et du coup, ils évacuent eux-mêmes pas mal de sujets. Okay. Et je sais qu'il y a plein de choses qu'on ne reproduit pas, donc dans le bon sens. Donc, donc pour tout te dire, la période de Noël cette année, elle est bien mieux passée que l'année dernière et on a eu moins de litiges clients que les années précédentes. J'ai l'impression qu'on apprend et que l'équipe apprend aussi vachement de ses erreurs. Okay. En tout cas, ces erreurs qu'on peut commettre vis-à-vis des clients.
Bien sûr. Aujourd'hui, la dimension responsable, etc., est-ce qu'elle apparaît, elle n'est pas du tout mise en avant. Est-ce que vous êtes responsable? Pourquoi?
Oui, tu as complètement raison. Alors, c'est un sujet qui est assez sensible pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime, ça a été ma première expérience. Et si tu veux, c'était tellement engagé sur la partie développement durable, autant sur le produit que sur l'humain, que sur le gramme, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai pas changé mes convictions. Donc, sur la partie, assez paradoxalement, et d'ailleurs, c'est venu de la BPI récemment, de nous demander de formaliser et de commencer à communiquer sur nos actions, parce que sur la partie RSE et managériale, on est très engagé, mais on communiquait pas dessus et on communiquait encore moins à travers le produit. Moi, je restais mon prisme de au lancement de Le Gramme, c'était de dire je veux avant tout que la boîte elle soit économiquement viable. Et derrière, s'il y a de la croissance et si on est viable, je m'éclaterai sur des actions développement durable, mais ça sera un plus. Ouais. Et pour te donner un exemple, chez Le Gramme, tous les salariés sont actionnaires. C'est un de nos engagements les plus forts. Je pars du principe que la répartition de la valeur et de la richesse de la société, elle est sur le capital. Donc, ils sont tous actionnaires et au bout de 24 mois d'ancienneté, ils ont un plan de BSPCE ou de BSA qui leur est proposé.
Okay.
Mais après, on a plein d'autres actions. On a de l'open discussion avec moi en direct. Chaque mois, je prends la peine de voir chaque personne, même ceux que je manage pas en direct, pour tout se dire. On leur présente les chiffres trimestriellement de façon transparente à l'issue de nos boards. On ferme le bureau à 15h le vendredi pour qu'ils aient une vie sociale parce que sinon, ils bossent tous comme des dingues. On prend 500€ de participation à une salle de sport ou aux sorties culturelles quand elles reprendront chaque année pour chaque salarié. On a une enveloppe de 1 500 à 2 000€ de formation chaque année pour chaque salarié sur une formation de leur choix. Bref, tu vois, on a une multitude d'actions comme ça sur la partie managériale qui est plutôt engagée.
Trop bien. Est-ce que tu réfléchis à être certifié B Corp ou autre?
En fait, j'ai tellement connu le développement durable de façon puriste et complètement extrême que je suis un peu sorti de, si tu veux, toutes ces certifications. J'ai une lecture qui est assez froide et distante par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas ou qu'on n'y viendra pas, mais aujourd'hui, pour moi, ce qui prime, c'est déjà que la boîte soit en croissance, qu'on crée de l'emploi et que les employés que j'embauche, je les garde, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils apprennent et qu'on les garde.
Est-ce que c'est des questions que... Est-ce que vos clients sont en attente de ça? Parce que c'est vrai que c'est peut-être la première question qu'il fallait poser. Est-ce que les gens vous posent des questions au service client? Mais d'où vient votre or? Comment c'est fait? Etc. Ou est-ce que, en fait, le fait que ça soit fabriqué en France, tout de suite, j'ai le sentiment que encore aujourd'hui, quand on parle de sustainability, à partir du moment où c'est made in France, forcément, c'est sustainable, quoi.
Ouais, c'est marrant. Tu as évacué un peu toi-même ta propre question qui est très juste en fait. Tu as complètement raison. Je pense que la première question, c'est quelles sont les attentes de nos clients. Je reste assez convaincu qu'il y a une attente certaine sur la partie engagement et durabilité et puis engagement tant sur le produit que sur la partie entreprise. Donc en ça, si tu veux, on va commencer à communiquer sur nos engagements RSE et sur mais aussi de façon transparente sur nos limites. Pour moi, le développement durable, c'est pas que dire ce qu'on fait de bien, c'est aussi dire ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait de cette façon. Nous par exemple, on aimerait si on pouvait 100% de notre matière première serait recyclée. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut pas. On peut pas parce
Pourquoi
que les affineurs, parce qu'on achète nos, parce qu'on est soit trop petit, soit trop gros. Si tu veux, on est dans la taille où on a trop de volume pour pouvoir sourcer notre matière comme on veut. Et les affineurs qui nous vendent ces volumes, ils sont pas capables aujourd'hui de nous proposer du recyclage parce qu'on n'est pas assez gros et qu'on parle pas en tonnes.
D'accord.
Donc on est un peu entre les deux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des marges de progression et des actions qu'on peut faire et mettre en place. On y travaille. On va surtout déjà commencer à communiquer dessus, faire preuve de transparence pour nos clients. Je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel. Et après des actions, je pense qu'une fois que tu as mis le doigt dedans, c'est un peu inextricable, c'est un cercle vertueux. On continuera, si on commence à communiquer dessus, on aura envie de parler de plus et de faire mieux.
Bien sûr.
Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais.
Si, non, c'est très clair, c'est limpide. Aujourd'hui, comment tu. Parce que. Il y a un truc qui m'interroge, même si c'est con. je veux dire, t'es designer industriel aujourd'hui, t'es devenu patron d'une grosse, enfin d'une PME ou enfin en tout cas, quand t'es commencé à avoir 30, bientôt 40 salariés, t'as dû monter en puissance toi et en savoir de façon exponentielle. Comment tu t'es formé et comment tu as réussi à garder le rythme de ce que ça te demande d'être patron d'une PME de 30-40 salariés? Comment tu te formes pour te faire de façon beaucoup plus simple?
Non, mais je me forme en continu en m'entourant des bonnes personnes.
Ouais.
Je me forme en restant ouvert et en essayant de, même si j'ai des convictions, je me remets constamment en question. Et je pense que ça, c'est assez essentiel. Et après, je me suis aussi formé par l'expérience et par les erreurs. J'ai beaucoup appris des erreurs que j'ai pu faire. Et ça a façonné mon parcours et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
Ouais.
Je vais te dire, la chose qui régit principalement mon prisme principal, c'est de prendre du plaisir, d'apprendre et de prendre du plaisir. Et je pense que c'est communicatif.
Mmh. Quels sont les outils que tu utilises qui te font gagner du temps? Est-ce que t'as une panoplie d'outils très efficaces qui te permettent d'organiser ta vie professionnelle, perso? Et de gagner du temps tout le temps. Enfin, comment, je vais peut-être poser plusieurs questions encore. Est-ce que tu as des outils que tu utilises qui t'ont fait vraiment gagner beaucoup de temps en automatisation? Et deuxième chose, c'est comment vous communiquez en interne? Est-ce que vous avez des points hebdo? Et comment c'est structuré votre communication interne?
Alors, c'est très amusant que tu me poses cette question. Je suis un dingue des outils de gestion de to-do list et de gestion de projet.
Okay.
Honnêtement, j'en ai pas trouvé un qui répondait à toutes mes attentes. Et surtout, je crois que j'ai pas la rigueur de les tenir dans le temps. Mmh. La réalité, c'est que la première chose qui, moi, en tous les cas, qui m'apporte et qui est une nécessité, c'est un peu un, ça s'est une fois de plus développé de façon intuitive, mais c'est un mode de fonctionnement personnel où déjà tout ce qui est à côté du boulot, j'essaye de l'automatiser. Je m'habille avec un uniforme, je serai capable de manger la même chose tout le temps, je libère de la bande passante, si tu veux. Pour me permettre d'être... on en parlait il n'y a pas si longtemps avec Pierre Maéo qui a fondé Officine Générale. On a un peu le même prisme par rapport à ça et c'est lui qui me disait ça. Il me dit c'est comme un sportif de haut niveau. Eux, ils ont des entraînements et des rituels. Bah, moi, j'ai vachement ritualisé ma vie. Alors, je te rassure, j'ai un terrain propice à ça. C'est que j'ai pas mal de névrose sur la place de l'objet et sur la ritualisation des choses, mais en l'occurrence, la résultante, c'est que ça m'a permis vraiment de libérer de la bande passante. Et après, sur la partie opérationnelle, moi, j'avais commencé à développer Asana en interne, et on bosse sur Asana, nous, pas mal. J'ai essayé 2-3 gestionnaires de to-do list, mais je reviens assez régulièrement au bon vieux post-it, qui n'est pas forcément le mieux du tout. Et comment on communique en interne? En interne, ils communiquent, l'équipe communique sur Slack, et je pense que je suis le seul de la boîte à pas être dessus. Je sais pas si c'est un caprice que je fais ou autre. J'ai essayé de m'y inscrire là tout le mois dernier. Et l'ironie du sort, c'est que j'arrive pas à réinitialiser mon mot de passe. Bref, je pense que quand ils m'entendront dire ça, ils seront soulagés que j'en parle avec lucidité. Mais la réalité, c'est que eux, ils communiquent sur Slack.
Ouais, c'est fou. Ouais. Moi aussi, j'y arrive pas à Slack. Hein. C'est dingue.
J'ai du mal.
J'y arrive pas.
Mais ouais. Je suis sur WhatsApp, tu vois. Mais j'ai du mal. J'ai du mal avec Slack.
Ouais, ouais, je comprends. Trop bien. Écoute, on va passer aux questions de la fin. Au cours, alors j'ai plusieurs questions de la fin. J'ai peut-être pas forcément envie de toutes les poser, mais ma première question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Martin Margiela.
Martin, voilà, Martin, bien sûr. Lorsque tu te sens dépassé, défocalisé, un peu perdu, comment tu fais pour revenir, pour te recentrer sur toi-même et revenir à toi?
Ça, c'est une question assez qui me déstabilise. Elle me déstabilise parce que j'ai un prisme, je régis les choses au prisme du projet. Donc, je m'inscris assez naturellement dans une dynamique permanente, ce qui fait que je suis peu amené à être désarçonné. Ça veut pas dire que c'est tout le temps fluide et que j'y arrive tout le temps du tout. Mais ce rythme, ce prisme du projet, il est assez présent et sans mauvais jeu de mots, il rythme les choses. Après, je vais te dire, j'ai mes enfants, j'ai 2 fils en bas âge, qui ont 4 et 6 ans. Et en fait, je suis tellement dépassé en étant avec eux parfois que quand je reviens au bureau, tout me semble beaucoup plus fluide.
Ouais.
Mais okay. Ils me confrontent tellement à la difficulté de l'éducation, de la remise en question, de tout, que au bureau, ça me semble plus fluide. Je ne sais pas si ça va durer, mais m'aide aujourd'hui.
Ok, donc le secret, c'est les enfants. Trop bien. Et dernière question, tu sais que j'ai une marque qui s'appelle Réuni. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils qui pourraient m'aider à améliorer Réuni?
Je n'aurais pas la prétention de pouvoir te dire que j'ai des conseils à te donner pour l'améliorer. Ce que je peux te dire en tous les cas personnellement, c'est que j'aime beaucoup la marque, que j'aime autant le nom que l'image. Moi j'ai des références dans la mode en termes d'image que sont Helmut Lang et Jill Sander. Et je retrouve certains codes dans ton image parfois qui moi me parlent. J'adore le business model. Je pense qu'on tend vers ça. Et en tous les cas, que c'est un vrai élément de différenciation. C'est un peu un vestiaire de basique que tu as envie d'avoir et tu peux attendre Moi, ça m'a vachement parlé, en tous les cas, quand je l'ai découverte.
Okay.
Une fois de plus, je ne sais pas si j'aurais la prétention de pouvoir te donner des conseils. Je sais que si j'étais à ta place, en revanche, je ferais ce travail que j'ai pu faire moi avec ce monsieur Jacques Birol sur le parcours client. Et je me dirais sur quelles étapes du parcours client je concentrerais mes efforts. Et intuitivement, j'y ai réfléchi un peu et je me suis dit, tiens, c'est marrant, avec son business model, c'est peut-être la première et la dernière étape du parcours client qui sont les plus importantes. C'est comment je fais connaître et comment j'amène mes clients actuels à en parler pour faire connaître. Et parce qu'en fait, une fois que t'as pris la peine que peu de gens prennent ou qu'ils n'ont pas le temps de prendre, de rentrer un tout petit peu dedans, t'es un peu conquis naturellement.
Mmh. Ok.
Donc je sais pas du tout si ça t'aide ou si ça répond à une question, mais en tout cas moi j'adore.
Non, c'est très bien. Ouais, cool. Bah merci beaucoup. Trop bien. Eh bien, écoute, moi j'ai passé un super moment avec toi. Pour être honnête, j'ai vraiment découvert tout simplement le Gram. Je trouve que c'est hyper impressionnant ce que tu as réussi à faire. Donc bravo pour tout et merci pour ta transparence et ta générosité dans tes réponses. Et j'espère avoir l'opportunité de te rencontrer en chair et en os bientôt. Bonne continuation et good luck pour la suite des événements.
Merci Adrien, c'était un plaisir partagé.
À bientôt, salut.
À vite, salut Adrien.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.